Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui dans Priorité Santé notre série de portraits. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine. Des entretiens avec des hommes, avec des femmes, médecins, praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels. Soigner dans votre cas aussi, éclairer et comprendre. Docteur Daniel Zaguri, bonjour.
Bonjour, Caroline Barré.
Vous êtes psychiatre, tout juste retraité du centre psychiatrique du Bois de Bondy, dont vous avez été très longtemps chef de service. C'est en Seine-Saint-Denis. Vous êtes expert psychiatre et vous avez signé, Daniel Zaguri, l'année dernière, le livre « La barbarie des hommes ordinaires » publié aux éditions de l'Observatoire. Alors Daniel Zaguri, le grand public connaît surtout les experts psychiatres parce qu'il va beaucoup être question de ce métier dans cette émission, à travers des films, à travers des romans, à travers des séries. Mais comment décrire avec justesse ce travail d'expert ? En essayant, bien sûr, de balayer un certain nombre d'idées reçues.
Je dirais que ce qui retient l'attention de la plupart des psychiatres des hôpitaux qui font des expertises, ce n'est pas de gagner de l'argent, parce que ça, c'est effectivement
pas le
cas dans notre pays. Ce n'est pas la recherche d'une certaine popularité, parce qu'on est très critiqué, mais je dirais que c'est la défense de quelque chose d'essentiel pour un psychiatre, qui est le fait que certains malades mentaux, au moment où ils ont commis l'acte, étaient trop affectés par leur maladie pour qu'on les considère comme responsables pénalement. C'est ça, si vous voulez, le noyau central de la vocation de l'expert psychiatre hospitalier.
Analyser, décrire justement cette responsabilité pénale, mais aussi identifier le degré de dangerosité et puis savoir s'il y a risque de récidive. On peut dire bien sûr que cet avis, il est consultatif, il n'est pas décisif, mais malgré tout, il est d'une importance essentielle.
Oui, alors il est d'une importance essentielle. Je dirais, il y a quand même autre chose, hein, qui est de rendre compte de la personnalité, parce que la personnalité de la plupart des criminels ne relève pas de la maladie mentale, et d'essayer d'éclairer le public et les non spécialistes sur ce qui a poussé des hommes ordinaires à commettre de tels actes. Mais pour ce qui concerne la dangerosité, malheureusement, trop souvent, si vous voulez, nous sommes interpellés un peu comme une sentence qui tomberait du ciel et qui nous permettrait de dire ici et maintenant et pour toujours que la personne est irrécupérable. C'est pas comme ça que les choses se passent. Il s'agit d'une part de donner les moyens à ceux qui travaillent en prison d'encadrer ces personnes et ensuite de faire des bilans et puis ces bilans au bout de 5 ans, au bout de 10 ans ou bien confirmeront des éléments de dangerosité qui étaient très préoccupants ou bien ne les confirmeront pas en fonction de l'évolution. Mais c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui tombe du ciel.
On a beaucoup d'images sur ce métier. Mais en fait, on connaît peu de choses parce qu'on ne côtoie pas des experts psychiatres, on ne côtoie pas cette profession. Alors j'ai toute une série de questions, docteur Zaguri, assez concrètes pour comprendre la nature précise de ce travail. Qui décide de faire appel à vos services ?
Alors c'est pas un métier.
Responsabilité, c'est quoi ?
Si je peux éclairer la justice sur quelque chose qui est issu de mon métier, c'est que j'ai un métier,
c'est que j'ai
une pratique. Si l'expertise n'était que mon métier, vous comprendrez facilement qu'assez vite, je ne serais plus compétent pour répondre aux questions. Donc, ce n'est pas un métier. C'est une fonction, c'est une fonction qui est acceptée par un certain nombre de professionnels et qui est en psychiatrie particulièrement importante. Parce que c'est à l'interface entre la clinique et le sociétal, entre les attentes sociales, les attentes d'éclairage et de compréhension sur ce qu'est le crime, sur ce qu'est la délinquance et notre compétence.
Et justement, cet examen clinique d'un suspect, d'un accusé, en quoi il diffère de l'examen clinique d'un patient lambda ?
Lorsque je prends en charge un patient, ou bien c'est lui qui est venu me voir parce qu'il est en souffrance, ou bien je l'ai reçu à l'hôpital sous contrainte parce qu'il a eu un certain nombre de troubles qu'il va falloir confirmer ou infirmer, mon travail consiste alors à l'aider à aller mieux. Lorsque je suis interpellé par un juge d'instruction pour l'éclairer et pour plus tard éclairer la cour, là, je ne suis plus dans une situation thérapeutique.
Et justement, quand vous faites votre exposé dans le contexte de la cour d'assises, à qui est-ce que vous vous adressez ? Est-ce que vous parlez davantage au juge ? Est-ce que vous parlez davantage au jury ? Ou est-ce que vous parlez davantage au public qui est dans la salle ?
C'est un exercice très difficile, c'est ce que j'appelle la pédagogie de la complexité. Je parle à tout le monde, c'est-à-dire que je parle d'abord à mes... je parle aussi à mes collègues, c'est-à-dire que j'emploie un certain nombre de mots techniques en les explicitant parce que il faut que mes collègues puissent dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais je parle aussi aux magistrats et je parle aussi aux jurés, c'est-à-dire que si je suis dans un discours abscon, complexe et technique, je vais très vite ennuyer tout le monde. Donc, et si à l'inverse, je bascule dans la réduction simplificatrice, je vais assez vite faire rire tout le monde. Donc il faut, si vous voulez, parvenir à sauvegarder mon approche technique tout en l'explicitant à des personnes qui ne sont pas des spécialistes.
Est-ce que vous diriez, après une quarantaine d'années d'expérience en tant qu'expert psychiatre, que vous avez développé un intérêt particulier pour certaines affaires ?
Ah, oui, ben, si vous voulez, d'abord comme psychiatre, il y a des domaines pour lesquels je suis plus doué que pour d'autres, il y a des domaines qui m'ennuient, et c'est inévitable. Et sur le plan de l'expertise, je dois dire, bon, je vais peut-être pas les citer parce que ce serait dévoiler mes cartes, bon, il y a des champs pour lequel je m'ennuie un petit peu, et puis il y a des choses qui me passionnent. Ça me passionne à chaque fois que ça interpelle une question clinique fondamentale.
C'est la nouveauté qui vous passionne ou c'est de retrouver un nouveau terrain sur lequel vous allez pouvoir approfondir ?
Non, c'est pas nécessairement la nouveauté. Par exemple, je m'intéresse aux tueurs en série, j'ai fait un certain nombre de publications. Si je peux découvrir quelque chose qui va enrichir mon modèle, le contredire, le complexifier, ben je vais être content. Je m'intéresse actuellement aux terroristes et aux sujets radicalisés. Je dois dire que j'ai passé mon temps à contredire mes représentations initiales, donc à les enrichir. Donc, d'une certaine manière, si la réalité apporte un contre-pied à ce que je pensais, ben je suis plutôt satisfait. Ça va me permettre peut-être d'aller de façon un peu plus complexe dans la solution de l'équation.
De progresser, d'apprendre. Alors à l'occasion de ces portraits, on s'arrête sur certaines étapes du parcours des invités. Pour vous, Daniel Zaguri, naissance en région parisienne, Courbevoie, enfance au Maroc, retour en France à 10 ans. Et c'est quand vous êtes scolarisé au collège Lacanal, hein, toujours en région parisienne, que vous assistez à une conférence au cours de laquelle un homme va influencer directement votre choix pour la médecine. Cet homme, cette réflexion, cette voix, c'est Jean Rostand, archive de 1962, où le biologiste évoque les potentialités de la manipulation de l'ADN. À l'époque, on dit DNA.
Il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA, on finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais ne sera-t-il jamais ?
1962, Jean Rostand, curiosité scientifique, interrogation éthique, la science, l'éthique, ça vous retrouve, on s'y retrouve. Justement, qu'est-ce qu'il y a quand vous êtes un jeune garçon dans ce discours qui vous marque et qui vous motive, Daniel Zaguri ?
je sais plus dans quelle classe j'étais, peut-être en classe de troisième, un adolescent qui se pose des questions sur son avenir, et puis qui tout d'un coup assiste à une conférence d'un homme prodigieusement intéressant, avec un charisme extraordinaire, et à ce moment-là, quand je sors de cette conférence, je me dis, je sais ce que je veux faire, je veux devenir biologiste, voilà. Donc, ça n'a pas été le cas. Hein.
Finalement, vous serez médecin, études de médecine en 68, et puis la psychiatrie. Pourquoi la psychiatrie ?
Alors, pourquoi la psychiatrie ? Très honnêtement, je pense que je n'aurais pas fait un bon médecin du corps. Bon, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, je le pense. L'anxiété, l'angoisse de la mort, la proximité avec la responsabilité dans les urgences, tout ça, c'était pas trop mon truc. Alors que, durant mes études, j'étais à la fois, j'avais la fibre scientifique et en même temps, la fibre littéraire. Donc, dans une certaine mesure, et dans le bouillonnement de mai 68, et de toutes les questions qui surgissaient à l'époque, je crois que ma vocation a été toute trouvée, comme un certain nombre de mes contemporains, c'était la psychiatrie.
La psychiatrie, puis donc cette rencontre avec la justice. Est-ce que vous considérez qu'à un moment, votre activité d'expert psychiatre, donc expert judiciaire, l'emporte sur le soin ?
Non, si vous voulez, quand on est un expert, on ne quitte pas son identité de médecin. On n'est pas du tout interpellé de la même façon. On a un devoir de vérité à l'égard de l'autorité qui nous mandate, à savoir la justice, mais on doit s'interdire tout jugement de valeur sur la personne, et c'est pas simple quand on a affaire aux pires assassins, et on doit, je dirais, fondamentalement sauvegarder son identité de médecin, ce qui ne signifie évidemment pas qu'on va plaider, en quelque sorte, se montrer complaisant à l'égard de ce qu'ils ont fait.
Ce n'est pas parce qu'il est patient qu'il est innocent.
Absolument.
Et justement, Daniel Zaguri, aujourd'hui, vous consultez rarement en dehors de l'activité judiciaire. Pourquoi, justement, avoir laissé de côté cette fonction de soignant ?
On ne peut pas tout faire. Hein. Moi, si vous voulez, j'ai adoré mon métier de psychiatre. J'ai adoré d'être chef de service, c'est-à-dire d'animer une équipe de très nombreuses personnes, une équipe pluridisciplinaire. Je n'ai compris que récemment, avec des études de neurosciences sur l'intelligence collective, comment et pourquoi l'intelligence collective est toujours plus efficace, plus performante que l'intelligence individuelle. Et si vous voulez, d'être à la tête d'une équipe qui se penche, comme disait mon maître Chazot, pour co-élaborer, pour comprendre ensemble, chacun apportant sa petite pierre à une situation, de faire du sur-mesure, de s'intéresser au parcours de chaque patient, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, j'ai adoré mon métier, et si vous voulez, c'est pas parce qu'on est plus directement en charge du soin qu'on a perdu cette fibre, et si je continue à écrire des livres, si je continue à former des étudiants ou à éclairer ceux qui viennent me voir, si je fais des séminaires, si je fais des expertises, je garde un lien évident avec ce qui a été le noyau de mon identité soignante.
Avec la pratique. Alors, justement, des professionnels, on va les entendre tout à l'heure pour essayer de vous connaître, mais aussi vos proches. Alors, votre épouse était magistrate, votre fils, docteur Daniel Zaguri, votre fils Victor, lui, est avocat pénaliste.
RFI.
Victor Zaguri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fils de Daniel Zaguri, père psychiatre, mère longtemps magistrate. Est-ce que l'on comprend, Victor Zaguri, quel mot mettons sur ces deux métiers complexes à définir lorsque l'on est enfant ?
Non, on ne comprend pas. On voit juste qu'il y a beaucoup de travail et du travail ramené à la maison, que ce soit côté magistrature ou côté expert psychiatre, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On sait juste que c'est des métiers où il est difficile de scinder vie privée et vie professionnelle. Le boulot ne s'arrête pas à l'heure de fermeture du bureau. Moi, j'ai souvent cette anecdote petit, je m'envoie dans l'appart avec mes sœurs et je vois mon père travailler, dicter, il est avec son dictaphone dans la main et il est là et il parle de dossiers on est presque à l'heure de manger ou d'être appelé à table et je l'entends dire, il découpe le cadavre, point, virgule, il met le corps dans le dos. On entend des mots horribles, on entend des concepts, mais tout ça est très, très abstrait. On voit juste quelqu'un qui travaille énormément.
Qui travaille énormément. Alors vous, personnellement, vous êtes devenu avocat pénaliste, Victor Zaguri. Est-ce que vous avez hésité entre droit et médecine ou très vite, en fait, votre choix s'est porté sur la justice?
J'ai pas du tout hésité. Alors déjà, je n'avais pas les qualités requises d'endurance, parce que l'étude de médecine, c'est 10-11 ans. Puis surtout, j'étais très très mauvais en maths et très très mauvais dans ces matières-là, en physique, en chimie, etc. Donc la question s'est jamais posée, puis j'avais un attrait particulier pour la justice. Donc honnêtement, il n'y a pas eu de dilemme de mon côté. Mes soeurs non plus d'ailleurs, n'étaient pas tellement attirées par les études médicales.
Est-ce que vous vous êtes croisé dans le palais de justice?
On se croise souvent. Alors, c'est la grande question. On ne peut pas se croiser dans un dossier parce que l'expert psychiatre, généralement, est nommé et désigné au cours de l'information judiciaire et l'avocat, en règle générale, intervient avant, donc il y aurait un conflit d'intérêts. Mais on s'est très souvent croisé. Et moi, j'ai très souvent des magistrats qui me parlent de lui et des confrères qui me disent en permanence à quel point ils l'adorent. Il a une très, très, très bonne et belle réputation auprès des gens de justice, en règle générale.
C'est un atout, un obstacle ou ni l'un ni l'autre?
C'est sûr que ça crée un présupposé, un avis favorable d'emblée. Donc c'est plutôt un atout, pas me mentir.
Un gros travailleur, vous l'avez dit, expert psychiatre. Est-ce que vous connaissez à votre père, Victor Zaguri, des passions en dehors de son métier?
Le foot. C'est un fan absolu de foot, ça veut dire ça de mon grand-père. Autant il est dans la réflexion, dans la nuance, dans la pensée, dans le recul, dans son métier, dans sa vie, etc. Autant devant un match de foot, il peut littéralement crier, s'exaspérer, péter les plombs. Il vit le match de foot de manière insensée et impressionnante. Il adore ça.
Alors Victor, votre fils avocat, donc c'est l'un de vos trois enfants, Daniel Zaguri, vous avez également deux filles. Peut-être une petite réaction à ce petit témoignage. Particulièrement, je veux dire, ce que j'ai retenu, c'est la scène de ces enfants qui entendent le père au dictaphone en train de parler de démembrement d'un individu. C'est quelque chose de spécial quand même, non?
Oui, d'ailleurs, mes enfants m'ont appelé le psychiatre de l'horreur. Alors, j'avais l'habitude de dicter mes expertises dans le jardin. Bon, j'avais la chance d'avoir un jardin, donc mes enfants jouaient. Et puis il y a un moment où j'oubliais leur présence, et donc je me souviens de mon fils ou de mes filles qui s'approchaient, qui disaient « T'as dit quoi, papa ?» Je dis « Non, t'inquiète pas !» Donc voilà, puis à ce moment-là, je faisais attention à ce que je disais.
Mais en même temps, dans le ton, on ne le sent pas particulièrement traumatisé.
Je ne pense pas.
Voilà. Alors, vous avez souvent l'occasion d'expliquer, on l'a déjà entendu depuis le début de cette émission, d'expliciter ce que c'est d'être expert psychiatre. Quand on entend justement dans l'opinion, tout à l'heure vous disiez, on n'est pas forcément aimé du grand public, comment expliquer qu'une partie du public estime que expliquer le cheminement criminel, finalement, c'est d'une certaine façon l'excuser?
Je vous le dis tout de suite, l'inverse est également vrai. Moi, j'ai été extrêmement frappé dans l'affaire Guy Georges.
On va resituer à chaque fois parce que certains de nos auditeurs ne connaissent pas. Guy Georges, on l'appelait le tueur de l'Est parisien, un jeune homme qui avait assassiné une série de jeunes femmes pendant un laps de temps assez court. Hein, et vous aviez été expert sur son procès.
Voilà. Et j'avais dit, il y a un epsilon de doute. Et j'avais été absolument surpris de l'écho de cet epsilon que j'ai interprété comme le fait qu'un médecin ne pouvait pas ne pas garder, sauvegarder un minimum d'espoir dans la personne humaine, y compris dans le pire assassin, même si cet espoir est, si vous voulez, infime, hein, de l'ordre vraiment de par principe. Hein. Bon, alors, donc d'un côté, on comprend mal que le médecin ne soit plus médecin quand il est expert. D'un autre côté, à partir du moment où on donne des éclairages sur les processus qui ont conduit une personne à commettre un acte, c'est souvent perçu effectivement comme le début d'une excuse, ce qui est tout à fait absurde. Si la société me mandate pour éclairer un acte, la société ne peut pas me reprocher d'avoir répondu à ces questions.
Alors, Daniel Zaguri, une quinzaine d'expertises sur des affaires qui relèvent justement de ces meurtriers en série, un meurtrier hors norme. Je ne sais pas si vous pouvez parler d'une forme de spécialisation. En tout cas, vous dites qu'on a tendance, que notre société a tendance à héroïser, hein, néologisme, héroïser négativement ces tueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire malheureusement que et ça se retrouve dans le goût pour certains romans policiers ou pour certains polars très cruels ou pour certaines séries ou pour des reportages. Vous savez comme moi que quand vous zappez à la télévision à partir de 10h du soir, il y a une chaîne sur deux qui fait un reportage sur les affaires criminelles. Donc il y a là, si vous voulez, quelque chose qui est à la fois compréhensible. C'est-à-dire que qu'on puisse s'interroger sur la question « qu'est-ce qui peut pousser des hommes à commettre de tels actes ?» ne me paraît pas une mauvaise question, mais la façon dont c'est mis en scène, montré parfois avec une certaine complaisance, est extrêmement préoccupante. Donc, il y a, si vous voulez, on a beaucoup de mal à imaginer que des sujets qui ont commis de tels actes puissent l'avoir fait pour des raisons médiocres, pour des raisons banales, pour des raisons petites, pour des raisons de sauvegarde d'eux-mêmes. Et assez facilement, on a tendance à amplifier ou à héroïser le mal dans une sorte de substitution.
Alors justement, on met en quelque sorte sur un piédestal ce criminel, même si ce piédestal est tragique et négatif. C'est cette opinion que se fait justement le grand public d'un événement public. Exercice d'examen clinique, travail d'expert. Justement, on en vient à ce fameux thème du héros génie du mal, hein, que vous avez rencontré pendant votre carrière. À côté du génie du mal, cette barbarie des hommes ordinaires qui a donc donné le titre à votre dernier ouvrage, Daniel Zaguri, une analyse qui s'appuie en partie sur les travaux de la philosophe et politologue Hannah Arendt.
J'étais convaincue qu'Eichmann était un bouffon. J'ai lu son interrogatoire de police, les 3600 pages. Je l'ai étudié de très près et j'ai ri aux éclats je ne sais combien de fois. Eichmann était très intelligent, mais il avait une forme de bêtise. Et c'est cette bêtise qui paraît scandaleuse. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai parlé de banalité. Il n'y a aucune profondeur, rien de démoniaque. Simplement le refus complet de se mettre à la place des autres. Je n'ai jamais voulu dire qu'un Eichmann sommeillait en chacun d'entre nous, ou je ne sais quelle autre bêtise. Non, rien de tel.
Alors, la voix d'Anna Arendt en 1964, réflexion sur la responsabilité. Petit rappel historique pour nos auditeurs, en 63, une année donc avant cet entretien, la publication de Eichmann à Jérusalem, essai sur la banalité du mal, qui fait suite à la publication, toujours donc par Hannah Arendt, d'une série d'articles dans le journal The New Yorker, à l'occasion du procès d'Adolf Eichmann, chef du bureau des affaires juives de l'Office central de sécurité du Reich, organisateur des déportations vers Auschwitz, jugé en 60, condamné à mort donc 3 ans plus tard, Daniel Zaguri. Au moment de sa publication, cette analyse d'Hannah Arendt dérange. Est-ce qu'elle dérange encore aujourd'hui de voir en un bourreau universel, finalement, un homme comme les autres ?
Oui, bien sûr. La banalité du mal est un concept scandaleux. Que nous dit Hannah Arendt ? Elle ne dit pas et elle n'a jamais dit, contrairement à ce que l'on a dit, parfois proféré, que les crimes nazis étaient banals. Elle dit que la personnalité de ceux qui les ont commis était le plus souvent ordinaire, ce qui est tout à fait différent. Mais bien entendu, encore aujourd'hui, mais moi, dans mon expérience d'expert, quand je vais aux assises pour dire que cet acte absolument épouvantable n'est pas le fait d'un fou, n'est pas le fait d'un monstre, n'est pas le fait d'un grand déséquilibré, d'un psychopathe, d'un pervers, d'un malade mental, mais d'un homme ordinaire qui a été amené progressivement d'étape en étape par les circonstances et du fait aussi de ses choix, bien entendu, à pouvoir les commettre, eh ben, ça jette un froid dans la cour d'assises, par
Pourquoi
exemple.
Pourquoi ? Parce que ça fait peur sur soi-même, sur les ressorts que l'on a a en nous-mêmes.
Mais bien sûr, quand j'explique que cet homme qui a découpé en morceaux sa victime, quand je dis aux jurés que ça n'est pas un malade, que c'est quelqu'un d'ordinaire et que l'acte a été facilité par un certain nombre de mécanismes psychiques, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le juré? Qu'est-ce que ça veut dire pour le magistrat? Ça veut dire ça ouvre la question. Est-ce que moi aussi j'aurais été capable, je serais capable de commettre une horreur pareille? Et évidemment, la réponse est non. Donc, il y a quelque chose de scandaleux à venir dire que les crimes les plus épouvantables peuvent être commis par les personnes les plus ordinaires, les plus banales.
Docteur Daniel Zaguri, on va marquer une petite pause avec une illustration musicale. Vous avez choisi Jean Ferrat, « J'arrive où je suis étranger », texte de Louis Aragon.
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour, tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser passer les lampes. La nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance et sur le toit même d'entendre tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie.
Aragon Ferrat, rien n'est précaire comme vivre. Nous poursuivons cet entretien dans Priorité Santé, portrait qui vous est consacré, docteur Daniel Zaguri, psychiatre, expert psychiatre. On va s'arrêter sur l'une des très nombreuses affaires, nombreuses personnalités bien sûr sur lesquelles vous avez été amené à vous pencher, un homme que vous avez décrit comme entièrement responsable et extrêmement dangereux. Il s'agit de Michel Fourniret. Tout de suite, illustration au travers du regard de l'une de ses victimes, victime de Michel Fourniret à l'occasion du procès de Charleville-Mézières 2008. Daïna Le Guénan témoigne. Michel Fourniret l'avait violée alors qu'elle était âgée de 14 ans.
L'attitude de Michel Fourniret ne me surprend pas, moi, puisque ayant été confronté à lui en 87, il avait la même. Sauf qu'il prenait pas de notes. Là, visiblement, il a pris pas mal de notes. Mais cette façon de fermer les yeux, moi, je voudrais pas que ce soit interprété par les médias comme... Il y a du mépris, certainement, mais je crois qu'il y a surtout qu'il assume pas du tout de regarder en face ses victimes, c'est tout. Et je dis que là, on est très très loin de Hannibal Lecter, quoi, de toute cette image qu'on en a fait. On est devant un pauvre type, quoi, alors qu'il y a un assassin, voilà, qui prouve sa lâcheté, parce que c'est lâche de tuer, quoi, de s'en prendre... Et là, il est encore plus lâche parce qu'il assume même pas ses actes. Donc voilà, moi, je pensais que j'aurais peur, et finalement... Bah ça y est, hein, j'ai vraiment plus peur. Il est pitoyable, voilà.
Témoignage lors du procès de Michel Fourniret 2008, propos recueillis par Laurence Théo de RFI, l'ogre des Ardennes. Finalement, Daïna Le Guénan, témoin, victime, vous rejoint, hein, elle est loin de... Elle n'a plus peur, elle le dit, cet homme n'ose même pas la regarder en face, un minable. Et pourtant, vous dites que selon vous, Michel Fourniret était le tueur en série français le plus abouti. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, commençons, si vous le voulez bien,
il y a beaucoup de choses, hein,
par Daïna. Hein. Ouais. Elle a complètement raison, et elle n'est pas la seule. Moi, dans mon livre sur les tueurs en série, je dis que c'est des pauvres hères. Ce sont des ratés de l'existence. Cet écart entre cette démonisation des romans policiers et, si vous voulez, cette représentation des ratés de l'existence témoigne bien de l'importance du problème.
Alors, Malgré tout, Daniel Zaguri, ils vous atteignent, ces hommes que vous rencontrez, puisque au sujet de Michel Fourniret, vous dites « Michel Fourniret m'a démoli ». Qu'est-ce que ça voulait dire?
Alors, quand j'ai dit qu'il était le plus abouti. Je n'ai pas dit qu'il était le premier au hit parade du crime. Je n'ai pas dit qu'il était champion olympique du crime. J'ai dit qu'il était un tueur en série qui avait mis 40 ans pour construire sa personnalité et pour se donner une carapace perverse. C'est pour ça que j'ai dit.
C'était une construction de la perversité.
C'est une construction. Michel Fourniret n'a pas toujours été Michel Fourniret. Michel Fourniret, jeune, était un pauvre type qui raccompagnait les petites filles chez leur maman après les avoir tripotées. Et il n'était pas le Michel Fourniret de 40 ans plus tard. Donc, le plus abouti, ça veut dire le plus accompli dans la construction de sa perversité.
Et malgré tout, il vous atteint quand vous dites « il m'a démoli ». Qu'est-ce qui est atteint en vous quand vous faites l'examen clinique de Michel Fourniret? Qu'est-ce qu'il dit, même si elle se crée, hein, ça bien sûr on respecte, qu'est-ce qu'il dit qui vous atteint à ce point?
D'abord, c'est pas la seule fois où j'ai été démoli, avec des guillemets évidemment, parce que j'ai ressuscité
vous
par la suite.
Vous êtes là en face, oui, tout à fait.
Et je suis là. Je veux dire que parfois, par surprise, on est attrapé par l'horreur absolue. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne Fourniret, je me rappelle de ses mains, ses grosses mains, qui m'avaient effectivement terrifié. Et ce qui m'avait terrifié aussi, c'est sa manière à lui de réagir. C'est-à-dire que lorsque je l'interrogeais sur la pureté, sur ce fantasme de virginité, il s'est mis en colère et au fond, il m'a mis dans le camp de ceux qui ne comprenaient rien, de ceux qui n'avaient plus de valeur, de ceux qui n'avaient plus d'idéal. C'est-à-dire que
lui était l'opprobre.
Lui était effectivement dans le camp du bien, du bon, du pur et de la virginité, alors que moi j'étais dans celui de la scorie, de l'impur, du sale.
Mais il y a quand même quelque chose de dans cette confrontation. Vous êtes médecin, vous arrivez comme expert psychiatre, donc mandaté par la justice pour essayer d'éclairer sur la personnalité d'un homme. Vous êtes confronté à quelque chose, on peut le dire, à Daniel Zaguri, d'extrêmement violent.
D'extrêmement violent, en effet. Et je pense aussi à sa capacité d'utiliser toujours le mot juste, la bonne formule grammaticale. C'est-à-dire que vous ou moi, et puis la plupart de nos auditeurs, lorsque nous parlons, nous sommes parasités par l'émotion, par des sentiments qui font que nous n'allons pas toujours employer le mot juste, que nous allons hésiter. Lui, il a une langue chirurgicale. Il a une langue d'une précision absolue parce que lui est complètement à distance. Je dirais, il est pure intelligence, peut-être pure intelligence du mal, mais pure intelligence, zéro émotion.
Alors, long parcours, expérience, donc vous êtes devenu, hein, on le sait, une figure dans ce rôle très particulier, puisque vous ne voulez pas que je dise le mot de métier, donc je vous écoute. Et hommage tout de suite d'une autre figure du barreau. Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat pénaliste, écrivain. Comment est-ce que vous décrivez, Éric Dupond-Moretti, Daniel Zaguri en audience?
Comme un grand psychiatre, peut-être un médecin, avec toute l'humanité qui va avec. J'entends par là qu'il n'a pas oublié qu'il fallait essayer de comprendre les hommes. Si on arrive là avec une espèce de préjugement, des jugements de valeur, des jugements moraux, Zaguri, c'est tout sauf le jugement moral.
Est-ce que vous avez en tête des éléments qui illustrent justement ce qui distingue la pratique de Daniel Zaguri de certains de ses confrères?
J'ai en tête, puisque vous me posez la question, une affaire dans laquelle un psychiatre, expert près la cour d'appel, a dit qu'une femme qu'il n'avait jamais expertisée n'était pas suicidaire. J'ai appelé Zaguri, presque désespéré, pour lui dire « Est-ce qu'on peut dire quand on est psychiatre que quelqu'un est suicidaire ou qu'il ne l'est pas ? Surtout quand on ne l'a jamais rencontré. » Il m'a dit « Mais non, bien sûr. » Zaguri, c'est la prudence. C'est jamais quelqu'un qui parle de vérité, mais de crédibilité. Il fait le distinguo entre la vérité et la crédibilité. Vous savez, quand Cahuzac était accusé d'avoir menti, et au fond, ça a préoccupé la justice davantage que les faits qui lui étaient reprochés. J'ai fait citer Zaguri, j'ai demandé qu'il expertise Cahuzac pour tenter de nous donner une explication sur le mensonge. Vous avez même en ce moment, sur les chaînes d'information continue, des experts qui livrent leur diagnostic sans aucun examen clinique. Mais comment c'est possible ces choses-là? Ça, c'est le contraire de Zaguri.
Est-ce que vous avez le sentiment, Éric Dupond-Moretti, qu'une expertise psychiatrique peut déstabiliser complètement, voire démolir une plaidoirie?
Pardon, mais la psychiatrie, c'est un art avant d'être une science. Et en la matière, l'avocat et la justice sont en droit d'exiger beaucoup de prudence. Et c'est justement l'une des caractéristiques de Zaguri, c'est qu'il est prudent. Et donc il n'y a aucune raison, a priori, de déstabiliser une plaidoirie ou une stratégie de défense, à moins qu'un expert arrive avec ses certitudes et avec l'arrogance des certitudes qui va de pair, évidemment, avec la certitude. Vous savez, dans l'affaire Doutreau, tous les experts ont dit à un moment que les enfants disaient la vérité et que les accusés avaient tous ce profil de pédophiles. Et quand on a su enfin la vérité, d'autres experts ont été désignés. Et là, ils ont dit qu'effectivement, la crédibilité ne pouvait pas être confondue avec la vérité. Et comme par enchantement, les accusés n'avaient plus le profil de pédophile. Alors quand on a vu ça dans sa vie judiciaire, évidemment, on se méfie beaucoup, beaucoup des experts. Et en tous les cas, des experts qui n'ont aucune prudence et aucune réserve.
Et c'est ce que vous aimez précisément chez Daniel Zaguri, cet expert qui reconnaît ouvertement ne pas détenir la certitude absolue.
Oui, et j'aime son humanité. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas oublié, lui, qu'il était d'abord médecin. Et que la psychiatrie ne pouvait s'envisager qu'avec une infinie circonspection.
Éric Dupond-Moretti, Daniel Zaguri, est-ce que vous lisez les comptes rendus de vos expertises dans les grands quotidiens, dans les chroniques judiciaires? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, alors, les chroniqueurs sont généralement assez gentils avec moi. Bon. Mais c'est pas une règle absolue. Il y a quelques années, un chroniqueur s'est un peu moqué de moi parce que j'avais prétendument tenu un langage abscon. Or, je déteste. S'il y a une chose au monde que je déteste, c'est bien d'apparaître abscon ou d'avoir une sorte de jargon. J'ai été vexé. Mais bon. Il avait peut-être envie de faire un bon mot ce jour-là, mais d'une manière générale, ils sont plutôt gentils parce que je pense qu'ils sentent chez moi l'effort de clarifier des situations complexes. En même temps, quand on est très prudent, ben on vous rétorque « Oh, même Daniel Zaguri n'a pas réussi à percer le mystère ». Donc, d'une part, on attend de nous des vérités révélées, et d'autre part, si, par malheur, on tombe dans le piège de proférer de telles vérités révélées, à ce moment-là, on tombe sur nous à bras raccourcis en disant « quelle simplification, quelle réduction ».
Alors, dans votre livre « La barbarie des hommes ordinaires », vous abordez différents types de crimes sur lesquels vous avez été conduit à travailler. Tueur en série, hein, on l'a compris, crimes conjugaux, infanticides, et nous allons le voir aussi, même des génocides. En 2011, vous avez publié un article qui s'appelle « Tueur en série et acteur de génocide ». On revient dans une certaine mesure à Hannah Arendt, avec comme matériau, au-delà de votre expérience auprès d'accusés rwandais jugés en France hein, pour ces actes de génocide, le livre de Jean Hatzfeld, « Une saison de machette », témoignage de prisonniers hutus génocidaires recueillis au Rwanda, dont voici tout de suite un court extrait.
C'était un boulot salissant, mais un boulot sans préoccupation de sécheresse ou de récolte gâtée, on peut bien dire. Sur sa parcelle, le cultivateur n'est jamais certain de ce que la récolte va lui proposer. Une saison, il verra ses sacs gonflés pour les faire porter par son épouse au marché. Une saison, il les verra maigrelés. Il va penser à se faufiler aux yeux des taxateurs. Il s'en montre inquiet et parfois indisposé. Mais dans les maisons abandonnées des Tutsis, on savait qu'on allait trouver des quantités d'une nouvelle contenance. On commençait par les tôles, mais le reste suivait. Le temps nous bonifiait grandement la vie, puisqu'on bénéficiait de tout ce qu'on manquait auparavant. La primus quotidienne, la viande de vache, les vélos, les radios, les tôles, les fenêtres, tout. Il se disait que c'était une saison chanceuse et qu'il n'y en aurait pas deux.
Extrait du livre « Une saison de machette ». Merci à Nicolas Falaise qui nous a prêté sa voix. Saison chanceuse, on revient à cette insoutenable banalité du mal avec, selon vous, des analogies, Daniel Zaguri, entre génocidaire et tueur en série, mais pas de raccourci hein, entre les deux. Analogie, absence d'empathie, absence de culpabilité, exclusion radicale de la haine au profit de l'indifférence. C'est la première des conditions, selon vous. Le tueur peut tuer sans haine?
Non seulement le tueur peut tuer sans haine, mais pour qu'une tuerie soit efficace, il vaut mieux qu'elle soit effectivement industrialisée et que ceux qui la commettent n'aient pas, si je puis dire, de désagrément, de déplaisir. Et donc, la neutralité, l'indifférence, qui est une forme supérieure de la haine, hein, comme le disait Freud, est absolument nécessaire. La haine est un obstacle. La haine me reconnecte aux raisons qui l'ont générée et, si je puis dire, elle ressource affectivement les traumatismes que j'ai pu rencontrer ou les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon existence. Donc l'indifférence est nécessaire. Et moi, j'ai été amené effectivement à rencontrer un certain nombre de sujets mis en examen 20 ans, 25 ans après le génocide rwandais. Alors j'ai été frappé parce que c'est des expertises d'une absolue banalité. Bon, ils sont tous innocents, ils n'ont rien fait et...
Mais c'est ça, ce qu'ils vous disent, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est ce qu'ils vous disent. Ils sont innocents,
c'est
ils n'ont
ce
rien
qu'ils
fait.
Me disent. C'est ce qu'ils me disent. Et vous savez qu'en tant qu'expert, je n'ai absolument pas le droit de porter le moindre jugement de valeur sur la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu. Je n'ai pas à commenter les faits, donc ce sont des expertises d'une grande banalité, ce sont des sujets qui occupaient une place souvent importante, ils étaient jeunes, mais ils avaient une place importante au Rwanda, aujourd'hui c'est des petits fonctionnaires, des petits employés, leurs enfants sont grands, ils font des études, ils se sont installés en France, ils n'ont jamais eu maille à partir avec la justice, ce sont des hommes ordinaires.
Et dans ces deux cas que vous comparez, génocide et tueur en série, on le voit aussi dans les propos des génocidaires cités dans une saison de Machette de Jean Hatzfeld, c'est ne pas regarder la victime, parce qu'il est très peu en fait question de victime dans nos échanges, ne pas regarder la victime dans les yeux. Comment est-ce que vous expliquez justement ce qui fait partie de ce processus de déshumanisation, de chosification qu'on retrouve aussi à travers le vocabulaire animalier qui est utilisé pour désigner les victimes? Ces hommes se sentent finalement puissants, mais ils n'ont pas le courage de regarder l'humain dans les yeux.
Alors, deux choses dans votre question. D'abord, les crimes en série n'ont rien à voir avec le génocide. Les crimes en série sont commis par un petit nombre de personnes qui ont toujours des traumatismes des organisateurs très importants, toujours des troubles de la personnalité, enfin un certain nombre de... Bon, on peut faire des comparaisons, des analogies sur les mécanismes des uns et des autres. Les génocidaires tuent au nom d'un idéal collectif. Si vous voulez, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la légitime défense anticipée. Dans les discours d'Hitler, les Juifs allaient détruire l'Allemagne. Il s'agissait de détruire ceux qui allaient détruire.
Il y a un objectif soi-disant...
Il y a un objectif prétendument de sauvegarde de la nation, de l'ethnie, etc., etc. Donc, ne pas regarder la victime dans les yeux. Vous savez, Michel Fourniret avait toujours, avec cette précision incroyable qui était la sienne, il disait « un regard, c'est une accusation ». Donc, il y a effectivement un certain nombre de gestes quand on tue, qu'il faut éviter. Il faut éviter psychiquement toute connexion entre la personne qu'on va tuer et un être cher. Et il faut éviter de croiser son regard. Et il faut, si vous voulez, avec de même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en tuant et avec l'habitude de tuer qu'on devient assassin et qu'on élimine un certain nombre de scories gênantes dans l'acte de tuer et notamment de croiser le regard de sa future victime.
Alors, ces crimes aussi, vous avez été conduit à travailler, vous le disiez tout à l'heure, sur les autres, avec les auteurs d'actes terroristes. C'est un petit peu dans la chronologie de votre activité, ce qui arrive de façon la plus récente. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les experts développent au sujet des djihadistes des analyses plutôt variées, plutôt différentes, ou à l'inverse, il y a une certaine homogénéité, vous vous retrouvez entre experts?
Écoutez, il y a des analyses communes ou convergentes de la part des gens qui ont une vraie expérience. Hein. Soit qu'ils travaillent en prison et qu'ils écoutent toute la journée hein, ce que leur disent les djihadistes, soit qu'ils en ont expertisé un certain nombre. Mais la difficulté, c'est que quand je suis un citoyen et que je réagis après un acte de terrorisme, je suis dans l'amalgame, je suis dans la réaction émotionnelle, je suis dans l'horreur. Et donc je dis les mêmes bêtises que la plupart de mes concitoyens. Mais quand je suis expert, la société ne me mandate pas pour dire la même chose. Et si vous voulez, j'ai appris avec l'expérience à distinguer un certain nombre de sujets pour lesquels il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de la défense sociétale, hein, de les mettre à l'écart, et d'autres sujets pour lesquels il y a effectivement une vraie possibilité de réadaptation sociale. Donc, parce que, si vous voulez, on dit déradicalisation, mais on pourrait dire resubjectivation, on pourrait dire retour à la vie. On pourrait dire, vous voyez, il y a ce double mouvement. Et à l'intérieur des sujets radicalisés, il y a une gamme extrêmement diversifiée. Donc, si la société veut comprendre ce phénomène, elle a besoin des psychiatres, mais évidemment pas que des psychiatres ou des psychologues, mais on a nous aussi notre petit mot à dire sur un sujet extrêmement complexe, qui est un sujet éminemment politique, éminemment sociétal, et qui concerne la géopolitique mondiale.
Alors on l'a compris au cours de cette émission, hein, on arrive à la fin de cette émission, l'expertise pratique bien particulière, ça ne vous écarte pas du tout de la psychiatrie. Notre conclusion, Daniel Zaguri, aujourd'hui, est-ce que vous estimez toujours qu'on assiste au désastre de la psychiatrie publique? Vous aviez signé une tribune en ce sens il y a environ un an dans le journal Le Monde. Est-ce que c'est toujours d'actualité ce délabrement honteux du soin?
Oui, c'est absolument d'actualité. On a dit que les infirmiers psychiatriques pouvaient être formés comme n'importe quelles infirmières. On a vu le résultat. On a dit que les médecins psychiatres pouvaient être formés comme n'importe... On a vu le résultat. Est-ce que la réaction de la société à l'égard de la psychiatrie est la même qu'à l'égard des autres disciplines médicales? Évidemment non. Est-ce qu'on a déjà vu un président de la République stigmatiser les maladies rhumatologiques ou les maladies cardiovasculaires?
Vous faites référence à Nicolas Sarkozy.
Je fais référence à Nicolas Sarkozy qui a marqué un tournant dans l'histoire de la psychiatrie. En stigmatisant véritablement tous les crimes qui ont été commis par des malades mentaux. Alors, il y en a un certain nombre, mais ils sont pas vraiment plus nombreux que ceux des citoyens ordinaires. Et nous savons comment faire pour éviter au maximum ce type de passage à l'acte. Il faut avoir un dispositif de soins qui soit performant, et c'est le contraire que nous faisons. Donc nous sommes en pleine irrationalité, et il est très important que les psychiatres prennent la parole pour dire qu'il faut reconstruire entièrement la psychiatrie publique française.
Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va se séparer. Merci infiniment, docteur Daniel Zaguri, d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir laissé brosser ce portrait dans Priorité Santé, émission réalisée par Didier Bleu, préparé par Assetou Samaké. Pour se dire au revoir, vous avez choisi Leonard Cohen, Like a Bird on a Wire. Très bonne journée à l'écoute de RFI et à demain.
Not ask for so much, and a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.